Nous avons la possibilité, nous pouvons tout simplement nous lever là où nous sommes pour tout simplement accueillir l'homme de Dieu, la pousse, Gaël, et tout simplement.
Thank you. tes serviteurs écoutent. Seigneur, parle-nous encore ce soir. Seigneur, inspire-nous ce soir. Seigneur, encourage-nous ce soir. Relève les fondements de la vie de quelqu'un ce soir. Notre Père, notre Dieu, je ne suis qu'un serviteur inutile. De moi-même, je ne peux rien apporter, communiquer à ces hommes qui ont dû prier à tes yeux. Mais je te demande, Père, une seule chose cet après-midi. Rends-moi utile pour un homme, pour une femme qui a besoin d'être restauré, qui a besoin d'être relevé, qui a besoin d'être encouragé. Toi la force de ceux qui sont faibles. Toi l'espérance des désespérés. Toi la justice de ceux qui sont opprimés. Père Tout-Puissant, cet après-midi, il y a un homme et une femme qui a un rendez-vous divin avec toi en ces lieux. Alors je te demande, Seigneur, que personne ne soit privé de ta grâce, cette grâce qui est en ces lieux. Et que ce que tu as arrêté dans les cieux, assurément, que chacun le reçoive par la foi au nom de Jésus-Christ. Bénis ces moments, bénis ces instants, et que seul ton nom soit glorifié. Et puisque cela est vrai, nous pouvons te donner une offrande d'acclamation. Alléluia. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Nous sommes au dernier jour de cette conférence où Dieu a dit beaucoup de choses à travers ses instruments, ses serviteurs. Je bénis le Seigneur parce que ce matin, vraiment l'Esprit de Dieu a su conduire les choses. Souvenez-vous ce que je vous ai dit hier, le serviteur ne fait pas ce qu'il veut faire. Le serviteur ne fait pas les choses par envie. Le serviteur, il fait les choses qu'il reçoit, l'instruction de son maître. Celui qui sonde les cœurs et les reins, c'est celui devant lequel nous sommes soumis en tant que serviteurs. Et lorsque notre Dieu, notre Seigneur, imprime une pensée dans le cœur de son instrument, cet instrument n'a pas d'autre choix que d'obéir à Dieu. Et ce matin, l'Esprit de Dieu a donné une direction à travers les deux prédicateurs et du coup, il a réorienté le message que j'avais prévu pour cet après-midi. Et le Seigneur a vraiment mis sur mon cœur de pouvoir encourager l'Église. Une journée d'encouragement. Vous savez, la meilleure façon de servir Dieu avec excellence, c'est de connaître la valeur de ce que Dieu a investi en vous. Parce que si vous ne connaissez pas et si vous ne reconnaissez pas l'investissement de Dieu dans votre vie, vous continuerez à vous voir médiocre et vous produirez la médiocrité. Connaître l'investissement de Dieu dans votre vie est fondamental et capital pour un service de qualité. C'est pourquoi ce soir, je vais parler du thème choisi par Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, est-ce que tu sais que tu es le choix de Dieu?
Amen.
Est-ce que tu le sais? Que Dieu t'a choisi, mais pour un but. Et nous allons découvrir à travers une histoire que j'aime bien, que j'affectionne bien dans l'Ancien Testament. cette richesse autour du choix de Dieu. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Origines, dans le chapitre 29 de Genèse. Genèse chapitre 29, verset 13. Tu es le choix de Dieu. Un choix réfléchi. Tu n'es pas une erreur, tu n'es pas un accident. Tu n'es pas une personne de second choix. Tu n'es pas une personne de réserve. C'est-à-dire que Dieu l'a tout fait et maintenant, bon ben, il n'avait pas trop le choix et puis il a pensé à toi. Non. Tu es de premier prix, première qualité. Parce que tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Le verset 13 déclare ceci: dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses, et Laban lui dit: certainement tu es mon os et ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob: parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit: je te servirai 7 ans. Pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit: j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban: donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban: qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit: ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec elle, celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. On va aller directement au verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit: l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit: l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit: pour cette fois, mon mari s'attachera à moi car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit: cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter, que le Seigneur bénisse sa parole. Notre Dieu, par la bouche de son serviteur Jérémie, parla au peuple qui était dans une situation d'exil, de servitude, et il rappelle à son peuple, il dit, va leur dire que moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur chacun de vous. Au moment où Dieu est en train de parler à Jérémie, le peuple d'Israël est dans la servitude. Mais dans cette servitude, dans cet état de déportation, Dieu envoie une parole de consolation. Il va dire à mon peuple que je connais les projets que j'ai formés sur chacun d'eux. Projets de paix et non de malheur, afin de leur donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Donc, il faut que nous puissions comprendre que pour chacune de nos vies, Dieu a des projets. Et le cœur de mon message, c'est de dire à quelqu'un, les plus précieux trésors de Dieu, il les a enfouis et investis dans les terres desséchées. Parce que le rejetant sort toujours d'une terre desséchée. Et dans l'histoire que nous venons de voir, c'est l'histoire de Jacob qui fuit la maison de son père parce que bon, il a roulé son frère Ésaü. Et sur recommandation de sa mère, il va donc chez son oncle. Et arrivé chez son oncle, Jacob a fait la rencontre donc, de son oncle et de ses cousines. Et la Bible dit que les filles de son oncle, elles étaient deux. Une s'appelait Léa et l'autre s'appelait Rachel. Maintenant, la Bible précise, donne des informations sur les enfants de Laban. Et j'aimerais te dire que lorsque la parole de Dieu précise, elle ne précise pas juste pour préciser. Parce que lorsque Dieu précise, c'est qu'il y a un sens à la précision. La Bible dit que l'aînée de Laban, appelée Léa, elle avait les yeux délicats. Ce qui attirait les regards sur Léa, c'était juste ses yeux. Elle avait un problème d'yeux. Maintenant, sa cadette appelée Rachel, la vie de Rachel, écoutez la description, était belle de figure, belle de taille. Elle était une candidate potentielle à l'élection de Miss Charon. Parce qu'elle était belle de figure, belle de taille. Maintenant, nous sommes au temps des patriarches. Et à cette époque des patriarches, Dieu avait un plan. C'est pourquoi j'aimerais que tu dises à ton voisin, Dieu, il a un plan. Hein? Dieu avait un plan qui devait poursuivre pour permettre la manifestation de notre Seigneur. Maintenant, dans le plan de Dieu, Dieu devait utiliser des instruments humains pour permettre la concrétisation, la matérialisation de sa promesse. Maintenant, je disais tout à l'heure que les plus précieux trésors de Dieu ont été enfouis dans les terres desséchées. C'est-à-dire, là où on a l'impression qu'il n'y a rien de bon. Là où on se dit que ce n'est pas possible. Comment je peux être utile pour Dieu? Comment je peux être utile pour ma famille? Comment je peux être utile pour ma nation? Est-ce que même en moi, il y a des bonnes choses? Parce que pendant cette conférence, on a parlé de servir Dieu. Mais est-ce que je suis capable de le servir? Est-ce que je peux même être utile? Et voilà, nous avons l'histoire de cette femme parmi les filles de Laban appelée Léa. Et c'est de Léa dont nous allons parler ce soir. Léa était une femme. Mais ce que Léa a vécu, beaucoup de femmes l'ont vécu et le vivent encore. Et n'oublions pas que la femme dans la Bible, c'est aussi l'image de l'Église. Imaginez un peu la condition de cette femme. Elle était l'aînée, mais elle n'avait rien pour attirer les regards. Elle avait des problèmes, Dieu, de vue. Mais sa sœur, par contre, tous les projecteurs de la ville étaient sur Rachel, parce qu'elle était belle de figure, belle de corps. Une personne comme ça ne passe pas inaperçue, je vous assure. Donc, l'existence même de Léa, elle peut vivre. Personne ne devait même s'inquiéter, puisqu'elle n'avait rien pour attirer les regards. Même si elle n'était pas là, ça n'allait inquiéter les gens, parce qu'il n'y avait rien en Léa qui pouvait intéresser les gens. Tout était centré, focalisé sur Rachel. Mais si Léa pouvait savoir, c'est pourquoi j'aimerais aussi que tu dises à ton voisin, hey, si tu pouvais savoir. C'est ça le problème. Si tu pouvais savoir, si elle pouvait savoir que dans le plan de Dieu, Dieu avait les regards sur elle. Les hommes avaient les regards sur sa sœur Rachel. Personne n'a regardé. Mais au ciel, il y a un Dieu qui regardait cette femme. Mais elle ne le savait pas. Les rejetons sortent toujours d'une terre desséchée. Parce que Dieu prend les choses faibles de ce monde pour confondre les choses fortes. Le Dieu que nous prions, il n'est pas logique. Dieu n'est pas logique. Il ne travaille pas dans la logique humaine. Il est Dieu. C'est pourquoi il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Voilà une femme qui durant toute sa vie a souffert d'un complexe. Elle a vécu le complexe parce que pour une femme, lorsque on ne te regarde pas, c'est qu'il y a un problème. Ça fait mal. Je me souviens au Maroc, on avait une soeur. Un jour, elle est venue me voir. Elle avait 24 ans en plus à l'époque. Elle me dit, pasteur, il y a un problème, il faut que tu pries pour moi. Je dis, mais pourquoi je vais prier pour toi? Elle dit, mais ça fait, j'ai 24 ans et tout cela. Et puis, il n'y a personne qui me regarde. Je dis, mais comment ça? Oui, il n'y a pas des gens qui viennent me voir. Il n'y a pas des avances que je reçois et tout cela. C'était un problème pour elle. Je ne sais pas pour les femmes ce que c'est. Mais je sais que c'est dérangeant pour une femme lorsque tu fais tout ce que tu as à faire et personne ne te regarde. Personne ne te dit même que tu es jolie. Personne ne te dit même que tu es bien habillée. Personne ne te le dit. Vous avez été créé. C'est l'erreur de notre père Adam. Adam n'aurait pas dû faire la poésie là. Depuis que Adam, lorsqu'il a vu Ève, il a dit, ah, cette fois-ci, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Mais les femmes ont été conditionnées, il faut qu'on vous dise des choses. Si on ne vous dit rien, vous avez des problèmes. La femme, il faut parler. Donc, une femme, lorsqu'on ne parle pas, lorsqu'on n'apprécie pas, il y a un problème. Léa, personne ne peut lui dire, mais oh, tu es jolie. Oh là là, non. Elle entendait ça que de Rachel. Imaginez la frustration. Est-ce que même Léa pouvait se regarder même dans un miroir, puisque personne ne peut dire, tu es jolie. Pourquoi je vais bien m'arranger, puisque personne ne m'apprécie. Et Rachel se faisait toute coquette tous les jours parce qu'elle était la miss du village. Mais oh, si Léa savait, et si Rachel aussi savait. Non seulement elle vit ce complexe en tant que femme, mais en plus de ça, lorsque son père fait son petit arrangement là, on donne Léa à Jacob. Non seulement elle vit un complexe en tant que femme, parce que physiquement il y a certainement un attrait qui dérange. Mais en plus de cela, on donne Léa à Jacob. Jacob, le frère Jacob, il va aller avec la sœur Léa. Mais à son réveil, il se rend compte que c'est pas Rachel. Jacob méprise Léa. Imaginez la frustration. Une autre frustration arrive. Une autre blessure. Je parle de façon prophétique à une femme dans cette salle qui est comme cette femme Léa. Elle vit des blessures également. Elle est méprisée. Elle est comme une chose. Elle peut dire, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ce sort? J'ai fait quoi, Seigneur? Méprisée. C'est pourquoi la Bible déclare, lorsque Dieu vit que Léa a été méprisée, qu'elle n'était pas aimée, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va rendre Léa féconde. Pourquoi? Dieu est un Dieu de justice. Lorsque Dieu rend Léa féconde, Léa certainement, elle s'est dit, bon, Jacob aime Rachel. Rachel a un problème, elle est stérile. Mais elle bénéficie de l'amour de Jacob. Mais elle, Léa, elle n'a pas l'amour de Jacob, mais elle est féconde. Alors certainement que Léa, c'est pourquoi vous voyez dans sa prière, chaque fois que Léa met au monde, elle espère gagner l'amour de Jacob. Elle se dit que peut-être que comme je lui ai donné l'enfant, il s'attachera à moi, il m'aimera. Malgré les enfants qu'elle a donnés à Jacob, Jacob était toujours attaché à Rachel. Lorsque je lis la prière de Léa, je me rends compte que c'est vraiment une femme qui était blessée et qui recherchait l'amour de son mari. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. Elle dit, maintenant mon mari m'aimera. Regardez tout ce qu'elle est en train de dire. Parce qu'elle souffre, elle a besoin d'amour. Elle a besoin d'être valorisée. Elle a besoin d'être considérée. Elle a besoin d'être appréciée. Mais elle n'avait jamais reçu ça. C'était une femme blessée. Au point où elle a cherché maintenant par ses efforts l'amour. Mais lorsque Dieu rendit Léa féconde, c'était pas pour que Léa puisse gagner l'amour de Jacob. C'est ça le problème. Dieu n'a pas rendu Léa féconde parce que, à travers la progéniture de Léa, que Jacob aime Léa. C'était pas ça le plan de Dieu. Alors, pour comprendre le plan de Dieu, nous allons repartir à la Genèse. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a mis en place un plan de salut de l'humanité dans Genèse 3, verset 15, où Dieu, de façon prophétique, dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et donc, à travers les âges, les siècles et les générations, Dieu avait prévu un instrument humain qui viendrait sur terre pour racheter l'homme. Maintenant, Dieu est un Dieu planificateur. Et en plus de cela, Dieu n'est pas pressé dans les choses qu'il fait. Voilà pourquoi au chapitre 12, nous voyons un monsieur qui s'appelle Abraham, qui est choisi par Dieu. Mais on se pose la question, pourquoi Dieu a choisi cet homme? Parce que ce monsieur devait jouer un rôle dans le plan de Dieu, parce que dans le plan de Dieu, il fallait que Christ soit manifesté sur terre. Mais non, dans le plan de Dieu, la manifestation de Christ, il fallait des instruments humains. Et Dieu va les choisir. Mais les instruments que Dieu va choisir, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, Dieu n'a pas choisi des gens forcément qui étaient appréciables au regard des autres. Mais Dieu va choisir les personnes, il prend Abraham. Et à travers Abraham, Dieu passe par Jacob. Parce que le Messie devait avoir une origine terrestre, parce qu'il devait, il était fils de Dieu, mais il était aussi fils de l'homme. Dieu choisit Abraham, et à travers Abraham, Dieu passe par la descendance. C'est pourquoi Léa, par rapport au plan de Dieu. Dieu avait investi quelque chose en elle qu'elle ne savait pas. Dieu avait caché quelque chose en Léa qui était plus grand que ce qu'elle pouvait imaginer. Elle était méprisée. Elle était déconsidérée. Elle était mal aimée. Mais dans le plan de Dieu, elle était choisie de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'à travers Léa, Dieu avait prévu les instruments qui allaient jouer un rôle dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'elle commence à faire les enfants, elle fait le premier, c'est Ruben. Jusqu'à présent, il n'y a rien de spécial. Elle fait le deuxième, c'est Siméon. Jusqu'à là, il n'y a rien de spécial. Mais arrivé au troisième, arrivé au troisième, c'était qui? C'était Lévi. Qu'est-ce qui était caché dans Lévi? Amen. Je dis bien qu'à cette époque, nous sommes au temps des patriarches. Israël n'est pas encore une nation. Naissance à Lévi. Or, derrière Lévi se cachait le pouvoir sacerdotal d'Israël. Parce que les Lévites, c'était les fils de Lévi. Le pouvoir sacerdotal d'Israël, la sacrificature, et ce fameux grand prophète d'Israël appelé Moïse est sorti de Lévi. Et Lévi n'était pas dans les entrailles de Rachel. Lévi était dans les entrailles de Léa. Et comme notre Seigneur devait être souverain sacrificateur, il devait être aussi issu de la tribu de Lévi. Le sacerdoce d'Israël était enfoui dans les entrailles d'une femme méprisée, d'une femme rejetée, d'une femme déconsidérée. C'est là que Dieu va investir le sacerdoce d'Israël. Dieu cache le sacerdoce dans une femme méprisée. Arrivé au quatrième, nous avons Judas. Et Judas, c'est le pouvoir politique d'Israël qui était caché en Léa. Parce que la royauté devait sortir de Judas. Et je vous disais que Léa, c'est une image de l'Église. L'Église, c'est la femme, comme disait l'apôtre ce matin, nous avons autant l'onction royale que l'onction sacerdotale. Nous trouvons dans l'Église le sacerdoce et la royauté. Parce que la Bible déclare, il a fait de nous un royaume de prêtres pour Dieu et des rois. Léa portait en elle la royauté. Léa portait en elle le sacerdoce. À travers Lévi, nous avons David. Le roi David se trouvait dans les entrailles de Léa. Vous voyez, les figures emblématiques de la vie d'Israël étaient cachées dans Léa. Ce n'était pas dans Rachel. Hein. Si Léa pouvait savoir que dans sa faiblesse, dans son infirmité, Dieu l'avait choisi et que Dieu avait caché tout le plan du salut, la chute même du plan du salut était enfouie dans une femme méprisée appelée Léa. Que notre Seigneur devait être aussi de la tribu de Judas. Jésus-Christ était bien le lion de la tribu de Judas. Il devait sortir de Judas, oui ou non? Si tu pouvais savoir, Dieu ne choisit pas les choses qui attirent les regards. Là où les gens disent qu'il n'y a plus rien, rien de bon, Dieu dit encore des choses. Léa était mal aimée. Elle n'était pas choisie par Jacob, mais elle était aimée de Dieu. Elle était choisie de Dieu. te choisir. Si Dieu t'aime, n'est-ce pas suffisant? Parce que même si les hommes ne te considèrent pas, ne t'apprécient pas, mais si le ciel te connaît, tu as tout gagné. Qu'est-ce qui est le plus important? Le témoignage des hommes ou le témoignage de Dieu? Les hommes peuvent dire des choses à ton sujet. Les hommes peuvent te juger en fonction de ta situation sociale, en fonction de tes capacités, de tes performances. On peut te juger, on peut te donner une étiquette. Mais qu'est-ce que Dieu dit à ton sujet? Le problème, c'est ce que Dieu voit en toi et ce que Dieu dit de toi. Qu'est-ce que Dieu dit? Tu te dis, qu'est-ce que je peux apporter? Je vais servir comment? Comment je vais servir? Il n'y a rien de bon en moi, mais j'aimerais te dire ce soir, il y a des bonnes choses en toi. Lorsque Dieu choisit, il sait pourquoi il choisit. Dieu l'a rendue féconde parce qu'à travers la fécondité de Léa, Dieu avait le plan du salut qui devait se mettre en place. Tu ne sais pas pourquoi tu es comme ça. Peut-être que tu te poses des questions. Mais ça, c'est la circonstance dans laquelle tu te trouves. C'est le moyen que Dieu va utiliser pour faire éclater sa gloire dans ta vie. Toi, peut-être que tu ne comprends pas, tu n'apprécies même pas la situation dans laquelle tu te trouves. Mais j'aimerais te dire ce soir, c'est un moyen que Dieu permet pour glorifier son nom dans ta vie. Parce que les terres desséchées, c'est l'environnement propice pour la manifestation de Dieu dans la vie des hommes et des femmes. Lorsque tout devient chaotique, là où il n'y a plus d'espoir, là où c'est terminé, c'est là que Dieu dit, bon, maintenant je peux commencer. Tant que tu ne seras pas une terre desséchée, le rejeton ne sortira pas. C'est pourquoi il y a des personnes, Dieu attend d'abord que tu atteignes le fond du trou. Tant que tu peux encore lutter, tant que tu as encore la force de faire les choses par toi-même, Dieu va te laisser. Quand tu vas arriver à un niveau où tu n'arrives plus, tu es fatigué, j'en peux plus, tu es au niveau zéro. Dieu dit maintenant, c'est à moi, je peux maintenant faire dans ta vie. Tu es le choix de Dieu. Ne regarde pas à ce que tu fais, à ce qu'on a toujours dit de toi. Si tu es en Christ, c'est que Dieu a un projet pour ta vie. Je suis en train de te dire qu'il y a quelque chose que Dieu a prévu pour ta vie qui va te dépasser parce que tu ne sais pas ce qu'il va faire. Parce que cette femme, elle était là. Elle ne peut pas s'imaginer que à travers elle, les deux pouvoirs qui ont soutenu Israël, d'un côté la sacrificature et de l'autre côté la royauté, c'était par elle. De façon prophétique, donc elle est la descendante. Elle est la descendante. C'est-à-dire que, je dis même pas, elle est la source, je dirais. C'est par elle que ces deux institutions sont venues. Dieu choisit les choses vives pour révéler sa force et sa puissance. Ne te pose pas des questions, est-ce que je pourrais y arriver? Tu n'y arriveras pas par toi-même. Mais le Dieu qui a investi son meilleur en toi, c'est lui qui fera l'œuvre à travers ta vie. C'est pourquoi hier je vous disais, prenons conscience de ce que Dieu a mis en nous, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la valeur ajoutée de Dieu dans notre vie. Parce que Christ en nous l'espérance de la gloire. Mais tant que tu ne comprendras pas qu'il y a une valeur ajoutée en toi, le Saint-Esprit de Dieu, tu vas continuer à te voir tel que tu te vois et tu t'es toujours vu. Mais dès l'instant où Dieu t'a enrôlé à son service, c'est que réellement tu as du prix. Vous savez, Dieu ne prend pas n'importe qui, hein. quand Dieu a posé la main sur une chose, c'est que vraiment cette chose est importante pour Dieu. Tu as été touché par la grâce de Dieu, tu as reçu l'Esprit de Dieu, c'est que vraiment tu comptes pour le Seigneur. Dieu t'a touché et tu es en connexion, en communion avec ce Dieu-là. Alors sache que tu n'es pas n'importe qui. Le n'importe qui, ce n'est pas le slogan de Dieu. Non, ce n'est pas une question. On n'est pas là pour prouver aux gens. Mais au plus profond de toi, tu dois savoir que tu n'es pas n'importe qui. Parce que le regard de Dieu est sur ta vie. Donc, de façon simple, ce que l'Esprit de Dieu ce matin a mis sur mon cœur en réorientant un peu les choses, c'était tout simplement de vous le dire dans ces mots les plus simples. Vous êtes le choix de Dieu.
Amen.
Et que le meilleur de Dieu, je dis bien le meilleur de Dieu, est investi dans vos vies. C'est une question seulement de temps. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, aurait pu faire apparaître le Messie même au temps d'Élie. Pourquoi le Seigneur Jésus n'a pas fait son apparition au temps d'Élie? Tout simplement parce que dans le plan de Dieu, il y a le temps de Dieu. Donc tu dois savoir, et je vais terminer par là, que Dieu a plusieurs façons de t'interpeller et de te faire réaliser qu'il a investi en toi. À travers la main, notre main, nous avons 5 pistes pour comprendre comment Dieu fonctionne. Tu veux savoir ce que Dieu attend de toi ou bien ce que Dieu va faire avec toi? Parce qu'effectivement, il y a cette question dans les cœurs. Comment savoir, reconnaître cette mission, ce service? Nous avons la main et nous avons le pouce. C'est le doigt le plus fort, celui qui exerce la pression. Je parle ici des fardeaux. Tu n'as pas compris pourquoi il y a certains fardeaux qui se sont imposés à toi sans que tu les fabriques. Dieu met des fardeaux dans mon cœur. Tu ne comprends pas d'où vient ce fardeau, mais Dieu vient, il t'impose un fardeau dans le cœur. Et tu es tourmenté parce qu'il y a quelque chose que Dieu impose en toi. Vous savez, un fardeau, ça ne s'invente pas. Ceux qui inventent les fardeaux, à un moment donné, ils vont être essoufflés, ils vont s'arrêter.
Amen.
Un fardeau, c'est quelque chose que tu reçois, Dieu s'impose à toi. Tu as quelque chose qui est là, qui te brûle. Et lorsque tu passes dans la rue, si Dieu t'a donné un fardeau pour, je ne sais pas, les enfants de la rue, tu es avec un frère ou une soeur, le frère et la sœur qui est à côté de toi peut marcher, il regarde l'enfant de la rue, il passe son chemin. Ni plus ni moins. Mais toi, lorsque tu vois cet enfant, tu ne comprends pas. Tu as le cœur déchiré. Tu ne comprends pas pourquoi tu as... Ça te perturbe à ce point-là. Chaque fois que tu rencontres ce même type de personne, tu sens qu'en toi, il y a quelque chose qui te dérange. C'est Dieu qui impose un fardeau en toi. Et ce fardeau veut dire que c'est là que Dieu veut que tu opères. C'est là que Dieu veut que tu puisses porter ton fruit. Parce que le meilleur travail, c'est celui qui est fait avec passion.
Amen.
Tu porteras des fruits dans un travail. Tu seras efficace dans un travail si tu as de la passion pour ce travail. Si tu as un fardeau pour ce travail. Si tu n'as pas le fardeau, tu auras des résultats, mais d'autres. Le fardeau, tu ne peux pas l'improviser. C'est Dieu qui le dépose sur ton cœur. Deuxième piste, l'index. L'index, c'est toutes les choses que Dieu met dans ta vie qui interpellent ta conscience. Tu es souvent interpellé par des choses, que ce soit dans des rêves, dans des songes, des choses qui se répètent souvent là. Sous plusieurs formes, mais dans le fond, c'est la même chose. Ça se répète souvent. Dieu est en train de te parler, il t'interpelle. Pourquoi ce sont les mêmes choses qui reviennent, qui se répètent sous plusieurs formes? À travers des faits de la vie de tous les jours, à travers des songes, des visions, les mêmes choses qui se répètent, qui se répètent. Dieu est en train de t'interpeller, Dieu interpelle. Il t'interpelle, il est en train de t'interpeller. Tu veux que Dieu te parle, mais fais attention à ces choses. Il est en train de t'interpeller. Le majeur, ce sont deux choses. C'est d'abord les talents naturels que Dieu t'a donnés. À travers les talents que Dieu t'a donnés, le talent te ferait le chemin où tu dois courir. Parce qu'un talent, ça ne s'improvise pas aussi, hein, ça vient de Dieu. Et lorsque Dieu te donne un talent, le talent donc te révèle le domaine dans lequel tu dois te manifester. Le talent te révèle le fruit que tu dois porter. Nous avons le talent et nous avons les dons spirituels. C'est pourquoi c'est le majeur, parce que c'est le doigt qui est le plus expressif, qui est le plus long. C'est ça qui est visible, c'est ce que tout le monde arrive à voir. Les gens voient le talent, parce que le fardeau, personne ne peut voir ton fardeau. Hein. C'est toi qui gères ça. Les interpellations, la personne, il y a toi qui gères ça. Mais ton talent est visible. Les dons spirituels que Dieu t'a donnés s'expriment dans l'église. On voit qu'il y a quelque chose de Dieu dans ta vie. Or, le don révèle le couloir où tu dois te déployer pour Dieu. Parce que Dieu ne peut pas te donner un don juste pour te donner un don. Le don, c'est pour que tu serves. Mais que tu serves où? Dans un domaine bien précis. L'annulaire, c'est le doigt du mariage, de l'alliance. Ici, je parle des rencontres. Dieu met souvent sur ton chemin une catégorie de personnes, un profil bien précis de personnes. Tu rencontres souvent une catégorie bien précise de personnes. Ou bien une catégorie bien précise de personnes viennent à toi. Soit pour te poser des problèmes. En tout cas, il y a des rencontres dans ta vie, mais d'une catégorie bien précise de personnes. Ça veut dire que c'est là que Dieu te destine. Quelqu'un qui rencontre que des autorités, c'est que Dieu veut faire un travail avec lui dans le milieu de ces gens. Parce que tu ne forces pas, ça vient vers toi. Les rencontres, les interactions que tu fais, un certain type qui se reproduit le plus souvent, qui se ressemble, c'est là que Dieu veut que tu puisses porter du fruit, et c'est là que Dieu veut que tu puisses être utile. Et enfin, pour terminer, l'auriculaire. Le petit doigt qui nous permet de nettoyer nos oreilles convenablement lorsqu'on n'a pas le coton-tige. Les oreilles, c'est le témoignage. Il y a ce qu'on appelle le témoignage des autres. Il y a des gens qui voient des choses. Des personnes qui ne te connaissent pas ou bien qui ne se connaissent pas, mais qui viendront te dire quasiment tous la même chose. Des personnes qui ne se connaissent pas, mais tu vas entendre, tu vas recevoir le témoignage. Ils vont dire, voilà, nous quand on te voit, et ça va concorder, ça va aller dans le même sens. Ça veut dire que Dieu te parle et tu dois te positionner. Voilà ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour pouvoir apaiser certaines interrogations que j'ai ressenties dans mon esprit et pour vous encourager. Le travail que nous faisons est un travail noble. Être au service de sa majesté, notre Seigneur. C'est pourquoi je vous invite à vous mettre debout. Non pas pour se lamenter, mais pour bénir le Seigneur. Pour bénir Dieu. Parce que tu as le choix de Dieu. Tu ne peux pas t'imaginer les bonnes choses que Dieu a investies en toi. Alors même si tu ne les as pas encore vues, bénis déjà à l'avance le Seigneur, parce que si tu es réellement enfant de Dieu, il y a des choses qui sont en toi qui vont se manifester un jour. Alors dis merci à toi le Seigneur, merci parce que je crois que tu as investi des choses en moi. Tu as investi des choses en moi, je le crois Seigneur. Je crois que tu as investi des choses en moi. Je crois qu'il y a le meilleur de toi en moi Seigneur. Je te bénis parce que à travers ce que tu as investi en moi, oui, je servirai ma génération. Oui, je serai utile pour ma génération. Parce que tu m'as choisi. La Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, il les a appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés. Tu fais partie d'un plan glorieux. Donc tu as des raisons de bénir le Seigneur ton Dieu. Parce que de ta vie sortira quelque chose. De ta vie sortira quelque chose. De ta vie sortira quelque chose. Même si tu es méprisé aujourd'hui, cela n'est pas grave. Léa était méprisée, elle était rejetée, mais elle ne savait pas que Jésus-Christ aussi était homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était méprisé, mais en Christ se trouvait la vie. La vie était en Jésus-Christ. Cet homme de douleur, cet homme qui n'avait rien pour attirer les regards, comme Léa, il n'avait rien pour attirer les regards. Jésus n'avait aucun aspect pour attirer les regards. Mais la Bible déclare, c'est vrai qu'il n'y avait rien de bon physiquement, mais la vie de Dieu était dans cet homme de Galilée. L'homme d'Ésaïe 53, homme de douleur habitué à la souffrance, méprisé et abandonné des hommes. Donc également, la vie de Dieu est en toi. Dis à ton voisin, la vie de Dieu est en toi. Et encore une fois, sois béni au nom de Jésus-Christ.